Alexandre Delval, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue spécialiste notamment de l'islamisme, du terrorisme islamiste et des relations entre l'Europe et la Turquie. Votre dernier ouvrage s'intitule « La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident ». Vous l'avez écrit avec Jacques Sopelsa et il est paru aux éditions de l'Artilleur en 2021. Alors, aujourd'hui, Alexandre Delval, on va parler des propos du président turc Recep Tayyip Erdogan à la veille du sommet de l'OTAN à Vilnius. Ce dernier a en effet déclaré qu'Ankara soutiendra l'entrée de la Suède dans l'OTAN si l'Union européenne rouvrait les discussions concernant l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Alors, avant de commenter les propos d'Erdogan, est-ce qu'on peut dire que cette façon de faire, c'est une sorte de, entre guillemets, chantage et c'est la tactique de prédilection d'Erdogan? On se souvient d'autres menaces telles que le fait de rouvrir, je cite, les vannes de l'immigration il y a quelques années. C'est la façon de faire typique d'Erdogan, Alexandre Delval?
Oui, c'est un homme qui fait des deals comme Trump, mais très souvent avec des chantages ou des menaces. Mais là, ce n'est pas que un chantage, parce que tout le monde sait, enfin parmi les gens qui connaissent les institutions européennes, tout le monde sait que il est impossible de rentrer dans l'Union européenne ou même de forcer la main de négociations en vue de l'adhésion, même quand on a été déclaré candidat et qu'il y a une ouverture des négociations, dès lors que le pays qui est candidat, avec qui on a ouvert les négociations, en l'occurrence la Turquie depuis 2005, il se trouve que Erdogan ne peut rien déclarer de ce type, exiger, revendiquer, puisque c'est la Turquie qui, depuis 2005, bloque un certain nombre de chapitres, il y en a 35, dits de l'acquis communautaire. Quand vous rentrez dans l'Union européenne, ce n'est pas uniquement parce que vous avez été déclaré candidat, on ouvre des négociations et il y a 35 chapitres de l'acquis communautaire qui représentent les grands domaines juridiques et législatifs auxquels le pays doit se conformer. Ça va beaucoup plus loin que les critères de Copenhague. Et il y a par exemple la pêche, le commerce, la sécurité, la démocratie. Et en fait, un chapitre n'est refermé, c'est l'usage, hein, c'est l'expression, que quand, après avoir été ouvert, que lorsque le pays s'est conformé à la juridiction européenne, qu'il intègre dans son système. Donc, il ne peut rien revendiquer. Il y a beaucoup de théâtre dans cette... C'est même pas vraiment un chantage, puisque c'est plutôt une façon de pouvoir faire ce qu'il veut après, changer d'avis, à nouveau changer d'avis, faire l'indigné, et avoir un prétexte pour continuer à bloquer la négociation. Je pense que ce n'est pas ça le terme de la négociation. Le terme de la négociation, c'est faire plier les Suédois pour que ceux-ci laissent les Kurdes dans les mains d'Erdogan, tous les Kurdes opposants qui ont été acceptés en Suède. Et si ça ne se passe pas, c'est très possible que les Suédois n'extradent pas assez de personnes, car Erdogan a mis une liste assez énorme. Ce serait incroyable qu'une démocratie livre des opposants qui risquent d'être exécutés chez eux. Donc Erdogan pourra dire, puisque c'est comme ça, voilà comment on me traite, eh bien je ne serai pas coopératif sur l'OTAN parce qu'on m'a bloqué au niveau de l'Union européenne. Une façon de culpabiliser les Européens. Mais en fait, je pense que la négociation, elle est ailleurs.
Donc on comprend finalement que peu importe la menace d'Erdogan, ça ne changera pas grand-chose à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est ça?
Non, parce que sur 35 chapitres, on en a ouvert à peine 7 ou 8. Mm-hmm. C'est rien. Et on n'en a refermé que un.
Mais quid alors pour la Suède si la Turquie ne soutient pas son adhésion à l'OTAN? Est-ce que c'est vraiment important le soutien de la Turquie?
Ah bah oui, parce que dans une organisation internationale comme l'OTAN, qui est fondée sur le principe de l'unanimité, puisque ce n'est pas supranational, hein, quand on est dans le supranational, la majorité peut suffire. C'est ce que les européistes voudraient faire pour que l'Union européenne n'ait que des domaines que l'on vote à la majorité. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a quelques cas, quelques domaines à l'unanimité. Mais des organisations différentes de l'Union européenne, comme l'OTAN, sont fondées sur le principe de l'unanimité. Un État peut bloquer tous les autres. Et donc, la Turquie bloque depuis des années l'entrée de Chypre dans l'Union européenne, en espérant que pour débloquer ça, les Chypriotes ne bloqueraient plus la Turquie dans l'Union européenne. Mais donc aujourd'hui, la Turquie bloque l'entrée de Chypre dans l'OTAN. Et elle fait pareil avec la Suède, en espérant ensuite négocier quelque chose. Moi, je pense que si au sommet de l'OTAN, on donne des garanties à la Turquie sur certains dossiers qui vont se négocier probablement en sous-main, par exemple la Syrie, l'obsession d'Erdogan d'obtenir un protectorat avec une énorme bande dans le nord de la Syrie qui serait repeuplée des réfugiés syriens de Turquie et zones dans lesquelles on pratique une purification ethnique et dans lesquelles Erdogan pourrait éliminer la présence kurde. Si par exemple on le laisse faire là-dessus et d'autres dossiers, par exemple en Méditerranée, il y a les questions du gaz et du pétrole, moi je pense qu'on est dans des hautes négociations et Erdogan pourra tout à coup, par miracle, céder sur la Suède, voire même sur certains prisonniers politiques présents en Suède, dès lors qu'on lui donnera autre chose dans d'autres domaines. Et donc là où Erdogan est assez génial d'un point de vue cynique, c'est qu'il joue sur tous les tableaux. Mmh. L'OTAN, l'Union européenne, les liens avec les États-Unis, son pouvoir de nuisance avec Al-Qaïda et Daesh pendant pas mal d'années, il a été très ambigu. D'ailleurs, la Turquie utilise beaucoup d'anciens d'Al-Qaïda qu'elle recycle en Libye et qu'elle recycle en Azerbaïdjan pour frapper les Arméniens. Donc il y a un double, voire un triple discours, ou plutôt une multi-stratégie d'Erdogan qui joue sur tous les tableaux. Et là, bientôt, il va se poser en maître des horloges pour reconduire l'accord sur le blé ukrainien et russe à partir des ports du sud de l'Ukraine. Vous savez qu'en échange du déblocage de l'exportation du blé ukrainien, les Russes, eux, demandent à ce qu'on permette aussi leur blé d'être exporté et de ne pas être sous embargo. Et c'est Erdogan, le grand négociateur de ce deal sur le blé qui était bloqué par la marine russe et qui a été débloqué. Et on va le reconduire le 15 août.
Alors finalement, Recep Tayyip Erdogan, il se donne un peu ce rôle d'acteur central au sein de la géopolitique mondiale. Hein, vous l'avez dit, Alexandre Delval, il est un peu partout. Est-ce que ce rôle d'Erdogan, ça convient à tout le monde? On a l'impression que personne s'y oppose vraiment.
Alors, en fait, ça convient à personne. En privé, quand vous parlez avec des diplomates russes, des diplomates américains, des diplomates français, des hauts fonctionnaires de l'Union européenne ou de l'OTAN, ils vous disent « Erdogan est un véritable casse-tête ». C'est l'horreur, parce que son pays abrite 50 ogives nucléaires, de nombreuses bases américaines et de l'OTAN, y compris des missiles donc nucléaires, c'est quand même quelque chose d'extrêmement extrêmement lourd. Et donc le pouvoir de nuisance de la Turquie à l'intérieur de l'OTAN est énorme. Et à chaque fois que Erdogan va vers les Russes, les Américains ont peur qu'il aille trop vers les Russes et ils lui donnent quelque chose en échange pour faire un pas en arrière. Récemment, il vient de dire que l'Ukraine méritait de rentrer dans l'OTAN, ce qui met un chaos incroyable parce que au même moment, Biden dit qu'il ne faut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN pour l'instant. Donc Erdogan joue constamment sur plusieurs tableaux. Il a fait libérer les prisonniers de Azov, donc les Ukrainiens d'extrême droite, hein, qui avaient été libérés en échange de la libération de Russes. Mais eux, ils avaient été accueillis en Turquie et Erdogan avait donné sa parole personnelle à Poutine pour que ces militants et néo-nazis et d'extrême droite Azov, donc ukrainiens, qui avaient fait le siège à Mariupol, qui ont été finalement vaincus, il les a libérés tout à coup en trahissant la parole qu'il a donnée à M. Poutine. Erdogan a fait pareil avec l'OTAN, avec les Américains, avec les Français, avec pratiquement tout leur part, avec la Syrie. Longtemps, Erdogan était un ami de Bachar al-Assad, qu'il appelait son frère. Ensuite, il a levé des légions pour renverser Bachar al-Assad. Et dernièrement, il s'est rabiboché avec lui. Pareil pour l'Égypte. Erdogan avait fait de El-Sisi son pire ennemi parce qu'il défendait l'ennemi d'El-Sisi qui était l'ancien président frère musulman. Aujourd'hui, il se rabiboche avec les Égyptiens et pareil avec les Émiratis et les Saoudiens après avoir soutenu le Qatar dans sa guerre diplomatique et économique contre l'Arabie Saoudite. Si vous voulez, on n'y comprend plus rien. Erdogan est un homme qui est constamment en train de changer, de jouer le chaud et le froid, même avec Israël. Le pire ennemi d'Israël et tout à coup il veut des relations apaisées avec Israël, mais et à chaque fois c'est sans transition. D'un coup il change de position parce que ça l'arrange, Parfois, c'est pour la politique interne, puisque depuis qu'il est allié avec l'extrême droite turque, hein, des loups gris, vraiment l'extrême droite, la vraie extrême droite néo-fasciste, eh bien, il est beaucoup plus nationaliste, un peu moins islamiste. Alors, il soutient un peu moins le Hamas qu'il y a 10 ans. Et si vous voulez, c'est comme cela avec tous les pays. Il fait toujours des virages à 180 degrés, mais parfois, et même souvent, c'est lié à la politique intérieure.
Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue spécialiste de l'islamisme, du terrorisme islamiste et des relations entre l'Europe et la Turquie, entre autres. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous, à très bientôt, merci, au revoir.